Nous pourrions ce soir être occupés de diverses rencontres de croyants avec le Seigneur. Il y a toujours un profit profond à se trouver en sa compagnie. Nous trouvons cela dès le début de l'Écriture jusqu'à la fin. Et dans la personne d'Abraham, nous avons déjà un exemple type de cette bénédiction. Avant d'entrer dans ce sujet directement, deux ou trois pensées sur le Pentateuque pour nous orienter quant à la manière dont Dieu dispose pour nous instruire, pour nourrir nos cœurs. Ce livre de la Genèse, dans son ensemble, nous présente en germe et d'une façon assez initiale le développement des pensées de Dieu quant à ses voies. Nous ne trouvons guère les conseils de Dieu dans la Genèse, mais plutôt ses voies. Probablement que chacun ici fait la différence de ces deux choses. Les conseils de Dieu sont donc ce qu'il nous révèle concernant la personne de Christ. Les voies de Dieu comporte plutôt les moyens que Dieu emploie pour s'occuper de ses enfants. Dans la Genèse, donc, en germe et sous des récits plutôt primitifs, nous trouvons les voies de Dieu qui s'accomplissent et donnent naissance à un peuple qui débute par l'appel d'Abraham. Le monde était tombé dans l'idolâtrie après le déluge, et Abraham était au milieu d'eux. Et c'est à ce moment que Dieu fait une chose absolument nouvelle, c'est qu'il sort du milieu des idolâtres un homme qu'il a choisi lui-même, il l'appelle pour le séparer de ce milieu et lui révéler ses pensées. Pensée de grâce, pensée merveilleuse. Il fait de cet homme qui était un idolâtre, il en fait un croyant, se révélant à lui, lui enseignant beaucoup de choses et lui faisant surtout des promesses. Ces promesses sont surtout destinées à sa descendance, ce qui nous montre qu'Abraham est un point de départ et qu'Israël sera la semence. Si nous prenons le livre de l'Exode, nous avons l'histoire de la rédemption. C'est un développement du processus des voies de Dieu qui s'accomplissent. La rédemption introduit forcément le Rédempteur. Celui-ci est typifié par les sacrifices. Et dans le désert se trouve érigé, nous le savons bien, le tabernacle, d'après le modèle qui a été montré sur la montagne, et ce modèle représente dans les moindres détails la personne de Christ. Qu'il s'agisse de la clôture, qu'il s'agisse de l'autel d'airain, qu'il s'agisse de la cuve d'airain, qu'il s'agisse du tabernacle lui-même avec ses deux compartiments, et les meubles qui s'y trouvent, tout, absolument tout, nous parle de Christ. Ce qui nous établit que dans la rédemption, ce qui était devant le cœur de Dieu, c'est le Rédempteur. C'est une personne, et une personne remarquable, qui n'a pas son précédent et qui n'a pas son suivant. Elle est unique dans l'éternité. C'est le Fils de Dieu. C'est le langage de l'Exode. Si nous prenons le Lévitique, nous y trouvons l'institution d'une possibilité d'adorer l'Éternel. Et ce livre, à juste titre, peut être appelé le livre de la communion. La communion signifie donc une commune part. L'Exode nous ayant présenté une personne, Dieu trouve dans cette personne tout ce que son cœur pouvait désirer de l'homme. Et de même, l'homme déchu trouve dans cette même personne un sauveur parfait, un berger pleinement suffisant, une espérance vivante. C'est le langage, dans les grandes lignes, du livre du Lévitique. Si nous prenons le livre des Nombres, nous y trouvons alors, dans les voies de Dieu, quelque chose qui s'étend à la collectivité. Nous avons maintenant un peuple qui est sorti d'Égypte, qui se dirige vers le pays de la promesse. Et pendant ce voyage qui s'est allongé pour les raisons que nous connaissons, au lieu de durer une douzaine de jours, il a duré 40 ans. Et cette longueur de voyage avait pour but de montrer au peuple ce qui était dans son cœur. Nous avons là toujours les voies de Dieu. C'est donc le livre du voyage. Si nous prenons le Deutéronome, nous y avons le testament de Moïse, comme il a été appelé. Ce n'est pas une répétition des précédents livres, ce n'est pas non plus une conclusion. C'est Moïse qui, de la part de l'Éternel, parle au cœur du peuple à la frontière de Canaan. C'est peut-être cette étape qui nous concerne plus directement maintenant, dans ce sens que nous arrivons à la fin d'une économie, celle de la grâce. Et nous attendons le Seigneur, sa venue pour enlever les saints, qui va bientôt nous introduire dans la maison du Père. Si nous en venons maintenant à ce que nous avons lu dans ce chapitre 18 de la Genèse, nous y trouvons un épisode de la vie d'Abraham. Il était donc près de sa tente, sous les chênes de Mamré. Le monde qui n'était pas loin de lui, ce monde idolâtre, était tombé dans un tel état que l'Éternel était obligé d'intervenir en jugement à cet égard. Mais il avait là celui qu'il avait appelé hors de ce monde. Il était là avec sa famille, avec toute sa domesticité. Et Abraham, sous les chaînes de Mamré, voit venir ses visiteurs célestes. Il les reçoit avec un empressement digne de remarque. Il se prosterne et il les retient. Nous avons là ce que produit l'amour. C'est une chose absolument remarquable parce que, sorti de l'idolâtrie, nous voyons quel chemin Dieu avait déjà opéré dans ce cœur. Une joie qui se manifeste par ces choses à l'égard de ses visiteurs. Il les reçoit avec beaucoup d'affection, il les retient avec la même affection, il les serre avec la même affection. Nous avons les trois étapes de l'amour que nous pouvons constater dans bien des passages des Écritures. Ainsi, ces voyageurs sont là avec Abraham et dans de telles conditions, la communion s'établit. Elle est typifiée ici par le repas préparé par Abraham, accepté par les visiteurs. Il est écrit à la fin du premier alinéa cette parole, « Ayant le repas devant eux, Abraham se tenait là, sous l'arbre, et ils mangèrent. » C'est la communion. C'est beau, la communion. Nous ne pouvons rien lui comparer. Quand elle est établie par l'amour de Dieu, elle produit des merveilles. Elle établit un lien qui n'existe nulle part ailleurs, parce qu'il est de Dieu. Elle établit aussi une joie qui ne peut être comparée à aucune autre, parce qu'elle est de Dieu. Et elle établit encore une chose magnifique, c'est la possibilité de connaître ce qui se passe dans les cœurs réciproquement. Nous n'avons pas lu la fin du chapitre, mais si nous la lisions, nous pourrions constater ces paroles que l'Éternel, qui était l'un des visiteurs, le Seigneur lui-même, dit cette parole remarquable un peu plus loin, « Cacherai-je, Abraham, ce que je vais faire ?»« Je sais qu'il enseignera ces choses à ses enfants. » La raison de communiquer à Abraham ce qu'il allait faire, c'est qu'il le connaissait. Première raison, une raison valable. Et cette connaissance révélait une appréciation quant à Abraham. Et une seconde chose, je sais qu'il enseignera ces choses à sa descendance. Cette descendance qui était la bénéficiaire des promesses qui lui étaient faites. Il les enseignerait. Quel encouragement pour les familles chrétiennes. Quand un père a à cœur le développement spirituel de ses enfants, il y a là un encouragement qui vient directement de Dieu. Si ce désir est profond, le Seigneur communique ses pensées. Il ne voulait pas cacher à Abraham ce qu'il allait faire, sachant qu'il l'enseignerait à ses enfants. C'est un principe qui, tout au départ de la famille de la foi, est un encouragement des plus profonds. Et Abraham a été instruit de ce que le Seigneur allait faire. Et nous savons bien que, comme l'Éternel l'avait déclaré, Abraham l'a communiqué à sa descendance. C'est ainsi que ce patriarche devient le père de tous les croyants, selon la promesse qui va jusqu'à lui dire que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Elle ne se limite même plus au peuple appelé Israël, elle dépasse la muraille, ce qui est dit en rapport avec Joseph, et la bénédiction s'étend sur toute la terre. C'est ainsi qu'Abraham est le père de tous les croyants. Quelle scène magnifique! Ce contact d'Abraham avec le Seigneur et ses conséquences, cela est propre à nous encourager, à nous émerveiller, à nous faire désirer cette communion avec le Seigneur. Nous allons lire dans le livre de l'Exode maintenant, au chapitre 3e, un autre contact. Chapitre 3 de l'Exode, depuis le verset 7. Et l'Éternel dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu d'habitation du Cananéen, dans le lieu d'habitation du Héthien, de l'Amoréen, du Phérézien, et du Hévien et du Jébusien. Et maintenant voici, le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment, et maintenant viens, et je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Nous avons ici un second personnage, Moïse, ce grand homme de Dieu. Il est placé en présence du Seigneur dans des conditions toutes différentes du précédent, c'est-à-dire Abraham. Moïse, dont nous connaissons la naissance, les voies miraculeuses de Dieu à son égard pour le faire instruire, parce qu'il fallait pour son ministère futur que ce soit un homme très instruit. Nous connaissons la manière dont le Seigneur l'a formé à l'école en Égypte quant à l'instruction humaine. Nous connaissons aussi la deuxième tranche de son éducation qui est celle de Dieu, c'est-à-dire 40 ans derrière le désert. Et maintenant Moïse entend la voix de Dieu qui s'occupe du peuple de Dieu. Ce peuple descendant d'Abraham avait mérité, nous le savons, à cause de bien des fautes commises dans le désert, avait mérité une école tragique. Mais en Égypte, après un long séjour d'oppression, Dieu voit cette misère de son peuple et veut le sortir. C'est son peuple. Il veut le sortir de là et employer pour cela Moïse, un homme que Dieu avait préparé depuis le berceau, depuis le coffret de Jean, jusqu'à ce moment-là, et lui dit qu'il le fera sortir son peuple d'Égypte. C'était une tâche immense. Ce peuple, esclave de la puissance la plus grande de l'époque, ce peuple n'ayant aucun moyen par lui-même de sortir de là, nous savons que Moïse a présenté pas mal de résistance à cet appel, à cette mission qui lui est confiée, mais Dieu ne renonce jamais à ce qu'il s'est proposé. Il vient toujours à bout de ce qu'il veut, et nous avons dans l'histoire de Moïse ce fait bien établi. Mais ce que nous voulons remarquer, c'est que Moïse entend de la bouche de l'Éternel des choses extraordinaires. Et cela a été précédé par quelques versets que nous lisons maintenant, le début de ce chapitre 3. Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson à épines. Et il regarda et voici le buisson était tout ardent de feu. Et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, « Je me détournerai. Et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas ? » Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici. » Et il dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Nous lisons cette portion après les remarques, parce que normalement, c'est là que se trouve la vraie révélation pour sa mission. Le buisson qui brûle, il est ardent de feu et ne se consume pas. Nous avons là typiquement présenté une de ces merveilles de Dieu quand il s'occupe des siens. Les lois naturelles, c'est le Seigneur qui les a conçues. Avec leurs conséquences et tout, il est au-dessus d'elles, il peut les transformer quand il veut, il est souverain. Du feu qui brûle sans consumer, miracle. Le peuple d'Israël n'est-il pas en lui-même, dans son histoire, depuis son appel jusqu'à l'établissement du règne millénaire, n'est-il pas un continuel miracle? Si nous voulons constater dans les Écritures ou vérifier la réalité des miracles, le plus grand de tous dans l'Ancien Testament, c'est certainement le peuple d'Israël. Rien ne pourrait expliquer, humainement parlant, l'histoire de ce peuple. Il est un miracle dans son appel, c'est un miracle de faire d'un païen un enfant de Dieu tel qu'Abraham. C'est un miracle. Et Dieu l'a fait, et dans quelle mesure? Une mesure parfaite. C'est un miracle que de constater les promesses faites à Abraham et à sa descendance dans un monde dont Satan est le prince. C'est encore un miracle que ce peuple ait traversé ce désert pendant 40 ans, arrive. Nous savons bien que c'est une nouvelle génération, mais c'est toujours le même peuple. Avec ces paroles prononcées à Moïse devant ce buisson, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Depuis longtemps, ces trois patriarches n'étaient plus. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Nous avons donc dans cette déclaration l'affirmation de la résurrection. Le fait que la mort physique n'est pas la fin. C'est un commencement, comme on l'a dit. Je suis le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et l'affirmation de ce miracle devait être une base quant à la puissance et à la souveraineté sans limite de Dieu pour Moïse dans l'exécution de la mission énorme qui lui était confiée. En lisant attentivement le début de l'Exode, nous pouvons en conclure concernant ce sujet que dans la pensée de Dieu, il ne voulait utiliser que Moïse pour accomplir tout ce qui concernait Israël, dans le sens de sa délivrance d'Égypte, dans le sens de la sacrificature, dans le sens d'avoir un chef à la tête du peuple, dans le sens que Moïse serait roi. Il devait être roi et sacrificateur. Sa réticence a obligé Dieu, si on peut employer le mot « obligé », a conduit Dieu, disons, à lui additionner son frère, Aaron, ce qui n'était pas dans la pensée de Dieu. Et remarquons qu'Aaron a été tout le long de la course une épine pour Moïse, et finalement il a dû lui arracher ses vêtements de sacrificateur. Quand Dieu a décidé une chose, c'est toujours pour le bien. C'est toujours la solution la meilleure. Et c'est extrêmement regrettable quand il y a opposition. Et c'est humiliant quand il y a incompréhension. Et c'est fatal quand il y a désobéissance. La volonté de Dieu est bonne. Elle est agréable et parfaite dans le sens que le Seigneur l'a réalisé en perfection, que ce soit en regard de la loi donnée à Sinaï, que ce soit en regard de ses voies à l'égard de ce peuple, à l'égard des promesses, à l'égard de tout. Le Seigneur a réalisé en perfection la volonté de Dieu. C'est pourquoi son œuvre est parfaite. C'est pourquoi elle est glorieuse dans ses résultats, et c'est pourquoi ses résultats sont éternels. Moïse, en présence d'une mission telle que celle qui lui était demandée, manifeste dans cette occasion une faiblesse humaine que nous ne pouvons pas ne pas comprendre, mais que nous regrettons et pour la gloire de Dieu et pour lui et pour tous. Néanmoins, ce contact a été un point de départ, un tournant immense dans les voies de Dieu. Dorénavant, le peuple esclave, qui devenait plus nombreux que les exacteurs, allait être délivré par un moyen divin. Il allait être conduit par un conducteur divin, la nuée. Il allait être sauvé par une intervention divine, la mer rouge, pour être introduit dans une terre ruisselante de lait et de miel, comparée à l'Égypte, la terre de sécheresse moralement parlant. Il n'en est pas autrement pour nous, sur une échelle infiniment plus élevée, pour les croyants de l'économie de la grâce, au bénéfice de tous les résultats déjà présents de l'œuvre de la rédemption. Et cet enseignement touche nos cœurs en ce sens que il ne peut produire qu'en nous, lorsque nous voyons les choses comme elles sont, elles ne peuvent produire que l'adoration. Contact avec le Seigneur, tu es sur une terre sainte. Ceci nous dit beaucoup. Ôte les sandales de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Cela signifie, spirituellement parlant, pour nous, que lorsque nous écoutons la voix du Seigneur, il faut faire taire toutes les autres voix. Celle du dehors, le monde, celle du dedans, le cœur déchu, celles qui viennent de l'ennemi, qui habite les lieux célestes encore, tout doit être mis de côté, ôte les sandales de tes pieds. Il faut s'arrêter dans sa marche pour écouter le Seigneur, réalisant que nous sommes mis à part pour cela, ce que signifie la sainteté, et en retirer le maximum de bénéfices. Des rencontres que le Seigneur permet, comme celle de ce soir ici, sont un de ces arrêts dans notre course duquel il devrait résulter ces trois choses. Le silence quant aux voix extérieures, intérieures, et même celle de l'ennemi qui vient des lieux célestes. Afin que nos oreilles soient uniquement occupées de la voix du Seigneur, nous plaçant sur une terre de séparation, de sainteté, parce qu'il veut nous communiquer des choses merveilleuses. Nous pouvons déduire cela des deux rencontres dont nous avons lu un fragment. Nous passons maintenant au livre de Josué. Dans ce livre de Josué, il y a aussi un passage remarquable. Nous lisons au chapitre 7e, quelques versets seulement. L'Éternel était avec Josué, c'était le dernier verset du chapitre précédent. Nous pourrions lire les deux derniers versets. Verset 26 de Josué 6. Et Josué jura en ce temps-là, disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et bâtira cette ville de Jéricho. Il la fondera sur son premier-né et imposera les portes sur son plus jeune fils. L'Éternel était avec Josué et sa renommée se répandit dans tout le pays. Nous connaissons tous le récit duquel il est question ici. C'est pourquoi je n'en dis rien, mais simplement quelques pensées sur ce dernier verset du chapitre 6. L'Éternel était avec Josué et sa renommée se répandit dans tout le pays. Josué avait été choisi de l'Éternel pour introduire le peuple dans le pays. Il s'est acquitté de sa tâche sans la réaliser entièrement, ce qui n'a été le cas d'aucun homme sur la terre. Aucun homme sur la terre, aucune femme, aucun serviteur, si grand qu'il fût, pas même un Moïse, pas même un apôtre Paul, aucun n'a pu dire qu'il avait achevé l'œuvre qui lui avait été confiée. Tous ont dû dire qu'ils ont achevé la course. La course. Seul le Seigneur peut dire, et nous avons cela dans Jean 17, en s'adressant à son Père, « J'ai achevé l'œuvre ». L'homme ne peut jamais atteindre la perfection. C'est toujours partiel. C'est toujours limité. Mais nous avons ici une parole d'encouragement malgré tout. Et cette parole se trouve en ceci, c'est que l'Éternel était avec Josué. Sa renommée se répandit dans tout le pays. C'est une merveille de penser que Dieu approuve, accompagne, sanctionne un de ses serviteurs ou une servante. Nous trouvons cela aussi pour des servantes. Nous avons une Hulda, nous avons une Déborah, nous avons une Jaël qui ont accompli des actes à la gloire de Dieu. La parole les a maintenus. Le Seigneur a jugé bon d'inscrire cela dans les Écritures. Tout ce qui touche à son cœur et à sa gloire, le Seigneur le consigne dans sa parole. Il n'y a pas de sexe pour cela. Il n'y a pas d'âge, ni de position, ni de titre. Il s'agit de cœur qui touche son cœur. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Marie, qui a oint le Seigneur de parfum, Marie de Magdala, qui a été près du tombeau, chargé d'un beau message, tout cela est consigné dans la parole. De même pour certains rois de Juda, fidèles, cela est consigné dans la parole. Quel encouragement! L'Éternel était avec Josué. Ces paroles manifestent une approbation, et plus que cela, un contentement. Dieu se réjouit de la fidélité des siens, même si elle n'est jamais parfaite, même si elles ne peuvent pas atteindre la mesure que le Seigneur seul pouvait atteindre. Mais quand le cœur est attaché à lui, malgré les faiblesses qui le caractérisent, le Seigneur en tient compte. Qu'il s'agisse d'un parfum, qu'il s'agisse d'un acte d'obéissance, qu'il s'agisse d'un acte de courage, qu'il s'agisse d'un acte pour délivrer le peuple, tout cela est consigné. Dieu ou l'Éternel était avec Josué. Dans les voies de Dieu, c'est-à-dire le chemin dans lequel nous marchons maintenant, en rapport avec les lumières qu'il nous accorde, par sa parole et son esprit, nous pouvons désirer, nous pouvons souhaiter réaliser cette approbation du Seigneur. Et pour cela, il faut naturellement connaître sa pensée. Il faut obéir en toute simplicité, reconnaissant que par nous-mêmes, c'est l'incapacité, sous tous les aspects, et que de son côté, c'est toujours solide, c'est toujours pour le bien, c'est toujours en vue de bénir, c'est toujours la perfection. Alors pourquoi tergiverser lorsque nous connaissons sa pensée? Marcher simplement avec le Seigneur, agir par amour pour lui, sera consigné dans sa parole. Nous savons bien que Dieu fera dans l'éternité deux choses. Une qui produira la louange quand il montrera les immenses richesses de sa grâce. Il se plaira à les montrer à la face de l'univers tout entier, parce que seule sa grâce est à la base de tout ce qu'il a pu faire et de tout ce qu'il a fait et fera encore. Et Dieu montrera cela à la face de tout l'univers, nous avons cela dans une épître, il se plaira à montrer les immenses richesses de sa grâce. C'est ce qu'il a fait lui. Et il honorera la foi de ceux qui par la foi l'ont honoré. Nous avons les récompenses, nous avons l'appréciation divine, et nous savons bien que ces choses sont des réalités. L'Éternel, nous est-il dit ici, était avec Josué, et sa renommée se répandit dans tout le pays. C'est beau de voir comme le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Si la foi honore le Seigneur honore la foi. Un autre contact que nous allons trouver plus loin se trouve dans le Nouveau Testament. Nous allons le trouver maintenant dans le Nouveau Testament, dans Luc 17. Il s'agit ici d'une chose assez différente, mais un contact très parlant. Luc 17, nous lisons depuis le verset 11. Et il arriva qu'en allant à Jérusalem, il traversait la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux le rencontrèrent. Et ils s'arrêtèrent de loin, et ils élevèrent la voix, disant, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et les voyant, il leur dit, « Allez, montrez-vous au sacrificateur !» Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent rendus nets. Et l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Et c'était un Samaritain. Et Jésus, répondant, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été rendus nets ? Et les 9, où sont-ils ? Il ne s'en est point trouvé qui soit revenu pour donner gloire à Dieu, si ce n'est cet étranger. » Et il lui dit, « Lève-toi et t'en va, ta foi t'a guéri. » Un épisode tout à fait différent ici. Nous connaissons, je pense, les uns et les autres, le sens de cette scène, sens. D'abord, la scène est historique, il n'y a pas de doute. Et si elle est rapportée dans l'Écriture, elle a un enseignement pour nous. De tous les bénéficiaires du salut de Dieu dans ce monde, nous avons ici une image de ce que doit produire dans le cœur le salut que Dieu accorde. Que doit-il produire vis-à-vis de la guérison de la lèpre qui typifie le péché inguérissable, qui typifie ce péché sous sa forme la plus hideuse? Seul Dieu peut intervenir. Dans le cas particulier, il devait être un témoignage vis-à-vis des sacrificateurs, montrant la divinité de celui qui les avait guéris. Mais ce n'est pas là ce que j'ai à cœur de relever, mais plutôt autre chose. La guérison des 10 est établie. Un seul revient rendre hommage au Seigneur. Chacun a déjà compris, je pense, l'enseignement de cela. Il y a énormément, et nous pouvons nous en réjouir, il y a énormément de sauvés sur la terre, probablement beaucoup plus que nous ne pensons. Mais combien y a-t-il de reconnaissance? Que représente-t-elle ici cette reconnaissance? Ce demi-tour pour revenir vers le Seigneur et lui rendre hommage, n'est-ce pas une image du culte? du culte que nous devons à celui dont nous recevons tout, et le salut, et la puissance pour marcher dans ce monde, et l'espérance vivante, le don de sa parole, le don de son esprit, tous les bienfaits qui découlent de sa personne. 10 ont été guéris, un seul est revenu pour rendre hommage. Quelle proportion! Ce qui nous montre, d'autre part, et sous un autre aspect, que le culte devrait suivre normalement la conversion. Il n'est pas nécessaire d'être un docteur dans la parole pour dire notre reconnaissance. L'adorateur peut ne pas avoir beaucoup d'orthodoxie, mais il peut exprimer sa reconnaissance. Et dans une assemblée de Dieu, il est réjouissant que des voix s'expriment en reconnaissance, en adoration, en louange. Dans la chrétienté, on a une maxime, sauver pour servir. Nous ne la trouvons pas dans l'Écriture. Nous sommes sauvés pour adorer. Pour adorer, le service vient après. Parce que le Seigneur mérite d'avoir en toute chose la première place. Il doit être sur nos cœurs avant le service. C'est très beau de servir le Seigneur si on le fait de tout notre cœur pour lui. Et c'est une chose qui nous est dictée dans l'Éphésiens au chapitre 2. Mais remarquons que la chose qui précède, c'est l'adoration. L'expression de la reconnaissance la plus élevée. L'ennemi sait tellement bien que le Seigneur est honoré par celui qui lui offre la louange, qu'il a fait tous ses efforts dans la chrétienté pour voiler ce qu'est le culte. Et le culte est une chose si élevée qu'elle atteint, on peut le dire, dans son caractère réel, des dimensions qui sont hors la terre, hors de l'homme. Le Saint-Esprit transporte le croyant dans une sphère céleste. Le véritable culte se réalise dans le ciel. Et c'est la raison pour laquelle nous ne trouvons dans les Écritures concernant les sacrificateurs aucune parole ni aucun siège, ni dans le tabernacle, ni dans le temple. Pourquoi aucune parole? Parce que l'homme n'a rien à dire de lui-même dans le culte. Il doit être absent. Ce qui doit être présent, c'est la personne de Dieu, du Père, par le canal du Fils. Nous avons cela dans le dernier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Nous avons dans le récit du Seigneur à la Samaritaine un coin du voile qui se lève pour nous montrer les pensées et les vraies voies de Dieu à cet égard, quand le Seigneur lui dit « Dorénavant ». Elle venait de dire « Nous adorons sur cette montagne. Vous vous dites que c'est à Jérusalem. » Le Seigneur lui dit: les vrais adorateurs que le Père cherche, ces adorateurs adoreront en esprit, c'est-à-dire dans une sphère spirituelle, et en vérité, c'est-à-dire hors d'un monde dont le Père est celui du mensonge. Hors du monde, hors de l'homme, en esprit et en vérité. Quelle révélation! Et ceci a été communiqué à une Samaritaine dont la vie nous est dépeinte, mais dont le cœur était plein d'un désir, d'un besoin de bonheur. Et remarquons que le Seigneur lui parle à cette femme. C'est par cet entretien que nous savons cela de la chose la plus élevée qui soit. Quand il y a un besoin de louange et d'adoration, il est lié au bonheur de l'enfant de Dieu. Et jamais un croyant n'est plus heureux que lorsqu'il adore, lorsqu'il est délivré de l'homme, de la vieille nature, qu'il est véritablement transporté par la nouvelle nature dans la nouvelle création. C'est un stade qui n'est pas, on peut dire, communément atteint, mais qui nous est proposé et qui est possible. Il est possible. Rien n'est plus grand sur la terre pour Dieu, à n'en pas douter, qu'une réunion de culte qui atteint ce niveau. Rien n'est plus grand pour le cœur de Dieu. Il abaisse non seulement ses regards, mais son cœur, comme cela nous est dit prophétiquement et en image, en rapport avec le temple que Salomon avait construit. Il est dit dans ce récit de la dédicace, « Mes yeux et mon cœur seront toujours là, toujours là. » Et si nous lisons le psaume 132, nous voyons que la construction du temple par Salomon revêt ces caractères. « J'habiterai là, je me tiendrai là, et j'ai désiré Sion, c'est-à-dire ce lieu. » Une assemblée réunie le premier jour de la semaine pour adorer le Père, d'une part, pour se souvenir de l'œuvre de la rédemption, d'autre part et surtout du Rédempteur, faites ceci en mémoire de moi, une telle rencontre n'a pas son équivalent. Et cela est confié à l'assemblée de Dieu. C'est le témoignage, c'est cela le témoignage dans le monde. L'assemblée de Dieu est appelée à être dans le monde la colonne et le soutien de la vérité. Une colonne met en évidence quelque chose en la mettant en hauteur. Et avec puissance, ce que signifie la colonne. Et au-dessus de cette colonne se trouve la vérité. C'est là la vérité dans le monde, autrement dit le témoignage. Une assemblée qui réalise le culte est en bonne santé. Et la réunion de prière qui la suit, cette rencontre-là, sera fréquentée avec amour. Parce que si dans l'une, on parle à Dieu pour l'adorer, dans l'autre, on lui parle de l'assemblée qui est le corps de Christ, et de ses besoins, et de ses joies, et on lui présente toutes ces choses par amour pour le Seigneur. Il en résulte forcément une élévation peu commune. Mais permettez-moi, bien-aimé, de vous exprimer cela avec ces paroles. Soyons ambitieux dans le domaine spirituel. Ne nous contentons pas d'une vie spirituelle relative, d'un niveau qui n'atteint pas celui que le Seigneur propose. Soyons ambitieux et que toutes ces rencontres soient personnellement préparées à domicile. Prions à l'avance pour toutes les rencontres que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir, et spécialement la réunion de culte. Préparées dans les foyers, étant véritablement sur les cœurs de tous ceux qui seront là. Et quelle joie aussi pour ceux qui se souviennent du Seigneur en participant à sa table. Rester à l'écart, c'est se priver de la plus grande joie qui soit. Se souvenir du Seigneur, c'est se souvenir de la source de toute notre bénédiction, présente et future, éternelle. C'est répondre au désir de son cœur d'être un témoin dans ce monde. Rester à l'écart, c'est se priver de cette joie, mais c'est surtout le priver, lui, de la joie qu'il a de voir un nouveau témoin proclamer dans ce monde la mort du Seigneur et toute la bénédiction qui en découle. Quel encouragement et quelle scène magnifique! le lépreux guéri qui est revenu en arrière était animé de ses sentiments. Il n'avait certes pas encore les lumières qui nous sont accordées. C'était avant la Pentecôte, avant la descente du Saint-Esprit, mais son cœur était touché. Et il vient exprimer son amour à celui qu'il avait tant aimé en le guérissant. Que ce soit notre part, la part de tous. Permettez encore une rencontre. Nous n'avons même pas besoin de la chercher. C'est cette rencontre dans Matthieu 18, 20, qui est si connue. Nous pouvons néanmoins la lire, c'est une perle de l'Écriture. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Cette promesse est conditionnelle. Et c'est une chose assez à remarquer qu'elle s'est étendue dans presque toute la chrétienté, et ceux qui lisent la parole de Dieu, qui ont lu une fois ce passage, s'approprient cette promesse. Le Seigneur est-il donc partout, dans tous les milieux, quelconque, toutes les fois que des croyants se réunissent ici ou là, est-il vraiment partout, personnellement, au milieu d'eux? On peut dire oui, quand la condition est remplie. Quelle est cette condition? La condition, c'est d'être réuni en son nom. C'est-à-dire qu'il est la première place. La première place. Si cette condition n'est pas remplie, la promesse ne peut pas être prise comme elle est prononcée ici, parce qu'elle est conditionnelle. S'il n'a pas la première place, il y aura la présence du Saint-Esprit, présence bénie aussi dans son sens, n'est-ce pas? Une valeur qui n'ôtera rien à une bénédiction qui peut se répandre sur des croyants qui se réunissent pour lire la parole et s'entretenir des choses de Dieu, mais la présence personnelle du Seigneur est conditionnelle. Il faut qu'il ait la première place, autrement dit qu'il exerce une autorité et que on reconnaisse véritablement sa seigneurie. Si cette condition n'est pas remplie, inutile de vouloir se baser sur cette promesse. Je pense que chacun a compris. La présence personnelle du Seigneur au milieu des deux ou trois rassemblés en son nom ou à son nom n'est pas la même chose que la présence du Saint-Esprit dans les croyants. Prenons un nombre de croyants, ils ont tous le Saint-Esprit, s'ils sont de vrais croyants, ils se réunissent pour lire la parole, pour s'entretenir de leur commune espérance, il y aura certainement une bénédiction. Et nous pouvons nous en réjouir. Mais ce n'est pas une réunion d'assemblée. La réunion d'assemblée, ce qui porte véritablement ce nom, c'est lorsque cette promesse est réalisée avec la condition qui s'y rattache. Si Seigneur a la première place, autrement dit qu'on est vraiment réunis autour de lui, il donnera à ce rassemblement l'autorité d'agir en son nom. Et voilà ce qui caractérise une assemblée de Dieu. C'est pouvoir agir en son nom pour introduire et pour soustraire au témoignage. Une assemblée qui prend une décision au nom du Seigneur, cette décision doit être reconnue parce qu'elle engage sa personne. Elle engage sa gloire. Ce qui ne signifie pas que l'Assemblée est infaillible, mais ce qui signifie que le Seigneur sanctionne une décision prise en son nom. Et pour la prendre en son nom, il faut qu'il soit là, au milieu, il faut qu'il ait été celui autour duquel on se réunit. Si on se réunit autour d'une doctrine, si on se réunit autour de manifestations spirituelles, dit-on, ce n'est pas la présence du Seigneur, c'est la présence du Saint-Esprit. Il y a là une différence notoire. Et on pourrait l'étendre à la question de la scène, qui certainement se prend dans presque tous les milieux de la chrétienté d'une façon éloignée de la parole, mais pour toute âme ignorante et sincère, il y aura une bénédiction de prendre la scène, de se souvenir de la mort du Seigneur. Même si ce n'est pas fait conformément à la parole, il peut y avoir une bénédiction relative. Mais ce n'est pas le témoignage, parce que ce n'est pas la table. C'est là la différence entre la scène et la table. La scène, c'est le souvenir, c'est le mémorial. On se souvient que le Seigneur est mort pour nous sauver. Et la scène ne va pas plus loin. C'est un mémorial. Mais la table, c'est autre chose. C'est la différence des chapitres 10 et 11 de la première aux Corinthiens. La table, c'est l'expression de l'unité du corps. Et cette unité du corps se réalise quand le Seigneur a la première place, c'est-à-dire un pain, un corps. Voilà la différence des deux choses, scène et table. Alors, la scène peut être prise dans divers milieux de la chrétienté, mais la table ne peut être reconnue que où le Seigneur a la première place et où l'unité de son corps est proclamée. Je pense que c'est suffisamment clair pour que chacun tire un grand bénéfice de ces passages si connus, mais pas toujours bien compris. Nous prenons un dernier passage de l'Écriture pour nous réjouir dans cet évangile de Jean, au chapitre 20e. Il y a un passage si réconfortant, nous aimerions le lire avant de conclure. Jean 20, et il leur dit, « Paix vous soit ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Et Jésus donc leur dit encore, « Paix vous soit ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis, et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. » Sans méditer ce passage, leur étant déjà avancé, quelques pensées quand même sur ces quelques lignes. Le Seigneur avait promis sa présence, nous venons de le lire, aux deux ou trois qui seraient assemblés en son nom. Et nous avons ici, après la résurrection du Seigneur, ils sont réunis le dimanche, le premier jour de la semaine, et le Seigneur vient au milieu d'eux, fidèle à sa promesse. Et remarquons que cette présence au milieu d'eux apporte deux choses essentielles. Elle apporte une plénitude de bénédiction, mais deux choses essentielles. La première, c'est la paix. Paix vous soit. La paix a été faite par le sang de la croix. Depuis que l'homme est tombé en Éden, la paix était absente de la terre. Dans tout l'Ancien Testament, nous ne trouverons jamais la paix véritable. Elle était exclue, elle était bannie de la terre. Il y a eu des âmes pieuses qui ont joui d'une communion avec le Seigneur, mais la paix qui permet de dire à Dieu que nous nous tenons devant lui sans conscience de péché, ceci ne pouvait pas précéder la rédemption. Mais maintenant que la rédemption est accomplie, le Seigneur est ressuscité, la nouvelle création a pris naissance, le Seigneur est au milieu des deux ou trois, sa première parole, paix vous soit. Enfin la paix. Et que signifie-t-elle cette paix? Elle signifie des relations bénies et intimes et possibles avec Dieu, et cela en permanence, et sans intermédiaire, sans la sacrificature, sans les sacrifices. Il s'est offert une fois pour toutes. Il n'est plus question de sacrifice, plus question de sacrificateur comme intermédiaire. Il n'est question maintenant d'une chose, c'est qu'il y a à la droite de la majesté le Fils de Dieu, et la paix a été faite par le sang de la croix. C'est un état de choses établi, des relations intimes et bénies éternelles. Paix vous soit. Quelle merveille! C'est une merveille cela. C'est une ère nouvelle. C'est, on peut dire, le soleil de la grâce qui se lève dans sa pleine lumière. La grâce a brillé dans tous les temps, mais d'une façon relative. Maintenant, elle brille de tout son éclat. Paix vous soit. Une autre chose, il donne à ce rassemblement, étant au milieu d'eux, l'autorité d'agir en son nom. Ce que vous lirez sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sera délié dans les cieux. Quelle solennité cela confère à une assemblée pour prendre une décision. Quand un cas se présente et qu'il s'agit de prendre une décision au nom du Seigneur, il faut se rappeler que cela est consigné dans le ciel. Cela est écrit dans le ciel. Ce n'est pas une petite chose. Et pourquoi? Parce que le Seigneur est là au milieu, c'est comme si c'était lui qui prenait la décision. Nous la prenons en son nom. Et c'est là la solennité de toute décision d'assemblée, pour introduire et pour purifier, pour sortir. Mais ce que j'aimerais laisser sur nos cœurs, en résumé de toutes ces constatations, c'est la bénédiction qu'il y a d'être en communion avec le Seigneur. Pour Abraham, une communion a été établie, et cette communion se répercute sur sa descendance, non seulement Israël, mais le monde entier. Toutes les nations de la terre sont bénies en lui. Quelle chose merveilleuse que dans un récit qui nous relate une petite rencontre de quelques personnes, les bénédictions d'une pareille étendue soient révélées. Et cela n'est pas une théorie, c'est une réalité. Nous bénéficions encore aujourd'hui de cette bénédiction initiale. Elle passe par Moïse, elle passe par tous les croyants, et de génération en génération, la parole de Dieu demeure, le Seigneur demeure. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La bénédiction lui est attachée et nous en bénéficierons éternellement. Pourrions chanter l'hymne du 19e.
Dieu dans